Je l'adore ce jingle.
Ah bah
je
c'est cool.
Bien, qu'il est bien.
Je veux bien que mal, tu me l'envoies, ouais. Ça, je m'en ferai une sonnerie de réveil.
Je suis désolé Seven, j'ai pris tous les éléments que tu m'as donné, mais il y a aucun qui j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ouais, donc, ouais.
Voilà. J'ai bien entendu, effectivement.
Bon alors, vous vous rappelez qu'on parlait processeurs il y a pas si longtemps que ça, avec les Snapdragon, tout ça. Alors au début, je voulais vous parler des processeurs, savoir comment ça marche un peu sous le capot, les histoires de gigahertz, tout ça, les flops, toutes ces conneries. Mais très vite, je me suis dit qu'en fait, il fallait des bases pour savoir comment fonctionne l'informatique au plus bas niveau, vraiment le début du début de l'informatique. Alors, cette chronique, c'est un peu un essai, hein, si ce genre d'explication hyper détaillée vous plaît, je continuerai. Si ça vous plaît pas, et ben, je reviendrai sur du plus grand public comme j'ai fait dans les chroniques précédentes, et en survolant un peu plus le sujet. Donc, pour commencer déjà, ne stressez pas, hein. Si vous décrochez un peu pendant cette chronique, c'est pas grave, hein, y a pas besoin de tout retenir en détail. Le but, c'est en fait d'avoir des notions. Si vous comprenez vaguement le principe, c'est très largement suffisant. Pour ceux qui le voudront, le PDF de cette chronique sera disponible pour une fois. Parce qu'il y a les petites illustrations qui vont bien, et ceux qui sont uniquement en audio, je vous conseille d'aller voir le YouTube du TechCraft d'aujourd'hui, donc le 136, parce que bah avec les illustrations, c'est un peu plus simple, et si vous êtes dans la voiture, eh bien écoutez, fermez les yeux pour bien vous concentrer.
Tu as mis les illustrations dans le PDF ?
Oui, j'ai les illustrations dans le document en fait.
D'accord, bah, je mettrai le lien à la fin.
D'accord. Alors d'ailleurs, tu peux nous mettre l'image du réveil parce que à la fin de cette chronique, vous saurez donc vaguement, hein, vu que je rappelle que vous comprendrez vaguement le principe, que c'est suffisant. Donc vous comprendrez donc vaguement comment on fait marcher une partie d'un lecteur, d'un afficheur LCD 7 segments. Oui, 7 segments. Vous savez le truc des vieux radio réveil qui forment un 8 avec des bouts qui s'allument ou qui se mettent en noir là. On appelle 7 segments parce que c'est composé de 6 barres ou segments qui font donc le pourtour et puis une qui est horizontale. Voilà, au milieu. Le bon vieux affichage de bombe, quoi. Vous voyez, le truc classique, quoi. Bon, alors,
le truc qu'on a dans un James Bond depuis...
Exactement.
C'est ça.
Voilà, ça, c'est déjà, vous avez appris ce que c'est un afficheur 7 segments. Vous avez appris que ça s'appelle un afficheur 7 segments. Pour arriver à comprendre comment ça marche, cet afficheur-là, on a besoin de 2-3 trucs. On a besoin de connaître le binaire, et savoir compter en binaire, on a besoin d'apprendre la logique au sens informatique du terme, et on a besoin de savoir mettre en place cette logique avec des outils dédiés. Ces outils, on va les voir aussi. Alors on va commencer par le binaire. Et déjà, pourquoi est-ce qu'on fait de l'informatique avec du binaire ? Et bien parce que l'informatique, à la base, c'est de l'électricité. L'électricité aussi con que celle que vous avez vue en techno ou en physique. C'est-à-dire que on dit que c'est 1 quand le courant passe et que c'est 0 quand il n'y a pas de courant. Alors ça peut être une lumière par exemple qui est éteinte ou allumée, mais ça peut aussi être un interrupteur qui est ouvert ou fermé.
Jusque-là, ça va.
Voilà, donc pour simplifier l'écriture, on met juste 0 ou 1 pour définir l'état dans lequel c'est.
Est-ce que la lumière est allumée ou est-ce qu'elle est éteinte, par
voilà,
exemple.
Est-ce que l'interrupteur est fermé ou ouvert? Mais comme tu vois, fermé ou ouvert, c'est chiant parce que les gens, ils voient un robinet et que pour eux, un robinet fermé, ça coule pas alors qu'un interrupteur fermé, le courant passe. C'est chiant, donc du coup, on dit 0 ou 1 parce que c'est plus simple. Donc, d'où le binaire? Il y a deux positions, il y a deux valeurs. On appelle ça aussi la base 2 parce qu'il y a que deux possibilités. On peut donc compter en binaire. Alors quel est l'intérêt de compter en binaire ? C'est parce qu'on peut donner à la machine une valeur avec des combinaisons d'interrupteurs, qui sont en position 1 ou 2, en position pardon 0 ou 1, et faire représenter par la machine le résultat via un chiffre qui nous sera donné avec des combinaisons d'ampoules allumées ou éteintes. Et c'est pour ça que ça a été inventé à la base d'ailleurs, hein. C'est parce qu'à la base on cherchait à faire des calculs très rapidement sans se prendre la tête. Alors, comment ça marche compter en binaire ? Vous avez l'habitude de la base 10, le décimal, qui a 10 valeurs possibles. 0,
d'où déci,
1.
En fait.
Quoi ?
D'où le déci, décimal.
Exactement. Mais j'étais pas parti pour faire du grec ou du latin, parce que je sais même pas si ça vient du grec ou du latin. Déci,
il me semble que c'est du grec, mais je
sais
pas.
Il me semble aussi, j'ai un doute. Donc, 0, très important le 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 10 valeurs possibles, parce qu'on compte le 0. Le principe est simple. On compte de 0 à 9, puis on incrémente un chiffre devant pour passer à la dizaine suivante. Quand on arrive à 99, on réincrémente le chiffre devant. Là, pour visualiser mieux le principe, j'ai donné une image à Kenton, un vieux compteur d'électricité, qui fonctionne un peu comme les compteurs kilométriques de voiture avant qu'ils passent au tout digital, où en fait, lorsque la roue la plus à droite arrive à 9, elle entraîne la seconde roue juste à sa gauche, et donc la passe au chiffre suivant. Elle continue à tourner, lorsqu'elle arrive à 9 de nouveau, elle va retourner cette roue. Quand les deux roues sont à 99, eh bien à ce moment-là, ça va entraîner une troisième roue qui est à la gauche des deux précédentes. Donc on va parler de roue primaire, roue secondaire, roue ternaire, etc. Et c'est comme ça qu'on compte en base 10. Eh ben pour le binaire, c'est pareil, sauf que au lieu d'aller jusqu'à 9, on va jusqu'à 1. C'est assez rapide, du coup. Donc on va compter ensemble de 0 à 10 en binaire. Alors, on commence par le 0. Le 0 en binaire, c'est facile, c'est 0.
0, 0, 0, 0.
Jusque-là, rien, c'est que dalle, jusque-là, ça va.
Jusque-là, tout le monde arrive à suivre, c'est bon. Maintenant, 1.
Attends, est-ce que je peux faire une hypothèse?
Oui.
Est-ce que je peux tenter un truc? Je sais que c'est un peu audacieux, là, tout de suite, et probablement que je me plante. Mais certains diront que ça fait partie de l'apprentissage.
Oui.
Est-ce que par hasard que 1, ça vaudrait 1?
Ah bon?
Exactement. Mais attention, ça va se compliquer. Ça va se compliquer, donc fais pas trop le malin.
Moi, j'aurais dit valeur maximale, en fait, pour 1, mais...
C'est ça. C'est la valeur maximale. Et c'est justement là où les histoires de roues primaires qui entraînent la roue secondaire commencent à rentrer en compte, c'est quand on arrive à 2. Quand on était à 1, on était au maximum de ce qu'on pouvait être sur la première petite roue. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va passer à la valeur d'après, c'est-à-dire 0. Elle va revenir à 0. Mais dans ce process, elle va entraîner la roue qu'il y a à côté. Donc, du coup, 2, ça s'écrit 1, 0.
Ou 10.
J'écris pas avec un seul 0, ça s'écrit 1, 0. Je vais éviter 10, 100, 100, parce que ça va être...
En binaire, on dit pas 10, 100 ou 1000,
c'est la base.
On dit des 0 et des 1, donc on dit 1, 0, on dit pas 10. Ou alors... pas chez moi, en tout cas.
Non, c'est juste pour la graphie mentale, en fait, que je précise.
Oui. Pour imaginer, donc, ça peut être pas mal.
Ouais. Donc, même du coup, ça tendance à confondre assez vite.
La roue primaire est revenue à 0, on a rajouté 1 à la roue d'à côté. Ensuite, 3. Jusque-là, la roue, on entraîne toujours la roue primaire, donc on arrive à
11.
On arrive à 1-1. On avait dit
qu'il y avait 11. Le mec qui suit, c'est ça, c'est bien.
On dit pas 10, le mec il dit 11.
Ah, voilà. Attention, maintenant,
on dit pas 10.
Maintenant, toujours le même principe, on a deux roues qui sont à leur valeur maximum, on 12. Peut rajouter 1.
Ah non, merde.
Les deux vont s'entraîner et incrémenter une troisième roue qui se trouve à gauche. Donc du coup, on arrive à 1, 0, 0. Voilà, c'est-à-dire que la roue primaire est revenue à 0, on rajoute 1 à la roue d'à côté qui,
c'est exactement elle, le même coup, principe qu'avec le compteur kilométrique, sauf que tes roues, elles font pas 10 caractères, elles en font que 2.
Exactement, c'est exactement ça. Donc du coup, on va avancer un peu plus vite maintenant. Le 5, du coup, vu qu'on était avec 4 à 1, 0, 0, le 5, ça donne 1, 0, 1. Le 6, ça donne 1, 1, 0. Là, on a entraîné la roue du milieu. Ensuite, le 7, ça donne 1, 1, 1. Forcément, vous en doutez, le 8, vu qu'on est tout à 1, eh ben, on va incrémenter une roue de plus. Donc, du coup, on arrive à 1, 0, 0, 0. Et ensuite, donc ça, on est à 8. À 9, on arrive à 1, 0, 0, 1. Et à 10, 1, 0, 1, 0. Après, on peut continuer comme ça jusqu'à 15.
Ad vitam aeternam.
Si on reste à 4 caractères. Mais on peut continuer encore plus loin si on a 32 caractères, par exemple. Bon, alors maintenant qu'on a pris la base de la logique du langage de base des ordinateurs, on est vraiment à la base. On est juste avec les chiffres, ces trucs le plus simple du monde qu'on puisse faire en informatique. On va garder ça en tête, cette histoire de 1 et de 0 qui veulent dire des chiffres, et on va le mettre de côté pour l'instant, et on va passer à la logique. Alors, on va parler de ce qui fait l'intérêt d'un ordinateur, sa capacité à activer ou à ne pas activer des trucs selon l'information qu'on lui envoie à l'initial.
C'est quoi, c'est un transistor que tu viens de nous décrire là?
Non, c'est l'ordinateur, c'est un machin, tu lui donnes des instructions, ça te chie un autre truc. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire.
C'est d'accord, ça, oui.
Ouais, c'est une transformation d'information. C'est une...
Tu veux dire que mon chien, c'est un ordinateur, alors? Non, Kenton, c'est pas la définition du transistor.
Ah, pardon.
Voilà. Toi, t'es parti trop loin avec le transistor. Je te dis juste que l'ordinateur, en gros...
Plus la même,
si je suis trop loin, laisse-moi, je reviens.
L'ordinateur, en gros, c'est une boîte, tu lui rentres des trucs et ça te sort des trucs en fonction de conditions que tu lui as demandé.
On dirait un humain.
Ou une calculatrice, ouais. Ou effectivement le chien où tu lui rends de la nourriture.
Tu lui donnes
un
protocole et tu lui donnes une donnée en entrée, et il va te donner une donnée en sortie.
C'est presque de la route. C'est comme un algorithme, en gros.
Oui, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer, en fait. C'est l'informatique, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a des algorithmes, il y a des transistors, il y a des programmes, il y a des machins. Donc, oui, effectivement, c'est ça.
Et c'est exactement, désolé de te couper, mais c'est exactement ça, en fait. Tous les machines, que ce soit votre ordinateur, votre calculatrice de collège, etc., c'est ni plus ni moins que des microcontrôleurs où il y a eu des programmes. Après, à différents niveaux de complexité, mais c'est ça de base.
Microcontrôleurs, Oasis. Ne va pas trop vite. Ne perds pas tout le monde.
J'ai pas encore fini mon premier Doliprane. Attends.
Je vais vous donner, alors, cette transformation, elle se fait selon une certaine logique, selon une certaine demande de la part de l'utilisateur, un certain principe. Je vais vous donner un exemple de logique. Sur le radio réveil de tout à l'heure, que Kenton pourra remettre l'image, prenons l'exemple de l'un des segments, celui qui n'est pas activé quand ça écrit 9. Vous voyez, celui qui est en bas à gauche. Voilà. On veut que ce segment ne s'active que pour lorsque les chiffres à afficher sont 0, 6 et 8. Pour tous les autres, vous pouvez vérifier dans votre tête, ce segment particulier ne s'active pas. Voilà, il s'active pas pour 1, il s'active pas pour 3, etc.
Il s'active pour le 2 aussi.
Il s'active pour le...
Pour le 2.
Le 2.
Ah, Damit, je l'ai oublié, le 2.
Ah, c'est effectivement, pas grave. Ouais.
Effectivement, oui, comme quoi, tu vois.
Heureusement qu'il a fait la vérification. Merci,
ça. Non, heureusement que j'ai suivi, c'est tout.
Oui, oui, oh, non, mais bon. Bien joué. Effectivement, je l'ai complètement zappé. Donc, il y a le 0, le 2, le 6 et le 8. Voilà, donc il s'active que pour cela, pour tous les autres, il est désactivé, sauf si j'en ai encore oublié un. Les autres segments fonctionnent exactement sur le même principe, mais avec des nombres différents. C'est un peu comme ça que ça marche. Après, le cumul de toutes ces instructions de « je veux que ça s'allume uniquement pour tel chiffre », ça fait que ça affiche le chiffre. Ben, pour représenter cette énoncé logique de « je veux que tu m'actives ce segment pour 0, 2, 6 et 8 », on utilise ce qu'on appelle des portes logiques. Une porte logique, c'est ce qui va donner...
Porte Nawak.
C'est ce qui va donner en sortie un état 0 ou 1 qui est prédéterminé en fonction du ou des signaux 0 ou 1 qu'on lui envoie en entrée. C'est en gros la représentation la plus... Je vous ai dit, un ordinateur, c'est un truc, on lui donne des entrées, enfin des choses en entrée, ça donne des trucs en sortie. Bah là, on lui donne un 0 ou 2, enfin, ou un état en entrée, et ça te sort un état en sortie, mais juste avec des 0 ou des 1. Voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment au début, au tout, toute la base de l'informatique. Alors, ces portes logiques, c'est avant tout une construction mentale. C'est un outil théorique, en fait, qui peut avoir, mais plusieurs réalisations physiques. On peut le faire avec de la simple électricité, on peut le faire avec des transistors, comme disait Kenton tout à l'heure, on peut le faire avec des microcontrôleurs, comme disait Oasis en allant trop vite tout à l'heure.
Mais ça,
aussi.
C'est juste les outils pour le faire. En
voilà,
fait.
Là,
l'idée
c'est
de base,
construction
c'est
mentale. C'est
oui,
un
c'est
outil.
Ça, c'est une construction mentale.
Voilà. Il y a des portes standards pour répondre à toutes les fonctions de base. Elles peuvent être liées à des variables, donc les entrées, mais elles peuvent être liées aussi entre elles.
Alors, je peux donner un exemple?
Ben, je vais en présenter quelques-unes, justement.
D'accord. Bah,
de portes logiques.
Mais oui, mais
parce
j'en ai un exemple
ça
dans la pratique à la limite, tu vois, pour que
ben,
ça parle tout de suite.
Ben, il n'y a pas de souci, on en parlera quand
d'accord,
on passera aux exemples. Donc, pour ceux qui n'ont pas le tableau sous les yeux que Kenton va mettre pour tout le monde, on peut, sur ce tableau, on peut y voir, donc, le nom, enfin, ce qu'ils appellent l'opérateur, le symbole, le schéma électrique équivalent. Comme je vous ai dit, ça peut se faire sous la forme électrique. Regardez pas trop le schéma électrique équivalent, ça va vous saouler. Le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle la table de vérité. Oui, je fais très bien l'écho. Alors bon, la table de vérité, on dirait un truc de ouf, c'est vrai que c'est un putain de nom badass, mais en fait, c'est juste l'état de sortie en fonction des entrées.
Ça fait un peu de table de multiplication dans l'idée.
Oui, moi j'avais plutôt les tables des commandements ou des trucs comme ça, mais avec vérité en plus, tu vois, ça sonne bien quoi.
Moi bon, aussi, oui.
Je vais vous donner, je vais vous donner 5 exemples. Je vais vous donner l'exemple le plus simple du monde, c'est la porte oui. La porte oui, en entrée, on lui met un 1, la sortie, elle va être à 1. On lui met en entrée un 0, la sortie, elle va être à 0. On lui remet un 1, ça remet un 1, on remet un 0, ça remet un 0. Voilà. C'est la porte oui. En gros, je dis, franchement, elle sert à rien, la porte oui, hein, on est d'accord. Hein. Mais en soi, ça permet de bien se lancer dans le truc. Mais elle existe vraiment, elle a vraiment son petit dessin qui correspond et tout dans la normalisation. C'est une vraie porte. Ensuite, on a la porte non. Alors, pour les plus malins d'entre vous, la porte non, vous aurez très bien compris le concept. Et pour les autres, si je mets un 1 en entrée, la sortie est à 0. Si je mets un 0 en entrée, la sortie est à 1. Vous suivez pas ou vous êtes tous endormis, d'accord?
Non, mais oui, mais on savait pas quand
t'es d'accord,
on
t'écoute.
Je voulais dire 11, mais bon.
Non, c'est pas ça. Donc, du coup, il y a la porte. Alors maintenant, là, c'était celle avec une seule entrée. Avec une seule entrée, de toute façon, il n'y a pas de grand chose qu'on puisse faire. Soit on a exactement le même état, soit on inverse l'état. toute façon, tu peux rien faire d'autre, hein, avec ça.
Alors, par contre, quand t'as deux entrées. Tout petit truc, oui. Si je peux dire un truc, on a parlé un petit peu dans les commentaires. Pour ceux qui vraiment, ça leur parle pas du tout, pensez à la redstone de Minecraft. Voilà. Peut-être ça parlera plus pour certains, c'est exactement le même principe, c'est là-dessus que ça a été calqué.
C'est tout simplement ça, en fait.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est exactement ça, je trouvais pas de mot plus juste pour dire exactement. Et
spécifiquement ça.
Ah oui, voilà, ça se peut aussi. Mais voilà, si ça vous paraît un peu flou parce que on parle de valeur de 0-1, pensez à des signaux éteints et allumés dans Minecraft avec la redstone et les cubes et les blocs avec les torches pour inverser et ainsi de suite. Voilà, vas-y.
Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, je vais vous présenter, pas dans l'ordre du tableau, pour ceux qui suivent le live, on va passer à la porte E, parce qu'elle est beaucoup plus simple à comprendre. Là, il y a deux entrées, il y a A et B, et il y a une sortie, forcément, toujours, hein, sinon ça sert à rien. Si A est activé, si A est désactivé, est à 0, et B est à 0, la sortie est à 0. Jusque-là, c'est simple. Si A est à 1, et B est à 0, ou que B est à 1 et A est à 0, donc il n'y a que l'un des deux qui est activé, la sortie reste à 0. Par contre, si les deux sorties sont activées, les deux entrées, les A et B sont activées, la sortie, elle, s'active. Et uniquement quand il y a les deux. C'est une porte et il faut qu'il y ait A et B. Ça se comprend, jusque-là, c'est vraiment simple hein, comme logique. C'est juste que c'est assez puissant quand on finit par les cumuler. Mais on va passer à la porte OU. La porte OU, vous aurez compris le concept. Dès qu'il y a l'un ou l'autre ou les deux, hein, il suffit qu'il y ait l'un des deux qui soit activé pour que la sortie soit activée. Le seul moment où la sortie est désactivée, c'est lorsque la sortie est à zéro, hein, c'est lorsque les deux sont à zéro.
Pour la porte OU, il y a une image que vous pouvez faire. Vous imaginez que vous prenez deux fils d'entrée, vous les reliez ensemble en fait, et vous regardez ce qui sort de l'autre côté. Qu'il y ait une l'une ou l'autre que vous mettiez une tension sur l'un ou l'autre des fils, en sortie, il y aura forcément quelque chose qui l'ampoule qui est en sortie sera forcément allumée vu qu'il y aura de l'électricité qui arrivera dessus.
Voilà, mais les schémas électriques à l'audio c'est chaud, mais je suis d'accord avec toi.
Vas-y.
Et sinon, une porte qui est intéressante aussi parce que un peu plus complexe, on va un peu plus loin, c'est la porte OU exclusif. La porte OU exclusif, vous aurez beaucoup vont comprendre directement le concept rien qu'au nom. Lorsque il y a A qui est activé mais pas B, ou lorsqu'il y a B d'activé mais pas A, la sortie passe à 1. D'accord ? Mais lorsqu'il y a les deux, ou lorsqu'il y a ni l'un ni l'autre, la sortie est à 0. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir l'un, l'autre, mais pas les deux. C'est un OU exclusif. Voilà. Contrairement au OU de tout à l'heure, où il pouvait y avoir les deux en même temps. Voilà, c'est ça la seule différence. Mais c'est intéressant.
Je n'aurais même pas parlé de cela, parce que dans ce cas-là, il faudrait parler de plein d'autres. La non-OU, la non-et, et ainsi de suite.
Voilà, mais justement, pour moi, ça, c'est celle de base. D'accord ?
Et oui, parce qu'il y en a plein d'autres.
En gros, l'idée de base, on n'a pas besoin de toutes les énumérer.
Voilà, on va
pas juste dire qu'il y en a un sacré paquet pour faire tout ce que vous voulez avec.
Et à partir de celle-là, d'accord ? Et même dans l'absolu, à partir des oui, des non, des ou et des et, sans même le oui exclusif, on peut faire toutes les autres. C'est pour ça que je les énumère pas, mais il y a effectivement des noms et des trucs où il y a l'une des entrées qui est déjà inversée avant même de rentrer dans la porte. Bref, toujours est-il, ça c'est celle de base, vous pouvez tout faire avec ça. On va donner des applications. Allez, la première truc, c'est le mode super easy, c'est l'interrupteur des toilettes. L'interrupteur des toilettes de chez Phil, hein, on appuie sur l'interrupteur, on bascule l'interrupteur, la lumière s'allume, on rebascule dans l'autre sens, la lumière s'éteint.
Ah, parce que pas chez toi?
Si, c'est la lumière des chiottes de Phil. C'est prévu qu'on visite ma maison ce soir, si tu veux. Donc d'accord. Là, on commence par les toilettes parce que c'est cosy comme endroit.
Non, c'est le fait que tu parlais de toi à la troisième personne qui m'a perturbé.
Mais c'est parce que tu me connais pas assez, c'est pour ça. Phil a beaucoup l'habitude de parler de lui à la troisième personne. Donc si on prend en compte l'interrupteur, c'est une simple porte oui en fait, hein, ce qui se passe. C'est quand je passe mon interrupteur à 1, la lumière passe à 1. Quand je repasse mon interrupteur à 0, la lumière passe à 0. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une porte OUI. Mais attention, on va aller un peu plus loin. Parce que moi, en bas, dans mon garage, j'ai un disjoncteur. Donc, mon disjoncteur, il faut qu'il soit en position « je laisse passer le courant » et que mon interrupteur soit en position « je laisse passer le courant » pour que mon ampoule, elle s'allume. Oui, jusque-là, tout va bien.
Non, mais attention, mais attention, parce que s'il y en a un qui coupe le circuit, ça marche plus.
C'est exactement. Mais on peut imaginer que le disjoncteur, quand il est activé, entre guillemets, vu que c'est un rôle de disjoncteur, il fait sauter le courant. Parce que c'est son rôle de disjoncteur. D'accord? Attention, ouais. C'est une opération mentale un peu compliquée. Donc, du coup, il faut qu'il y ait l'interrupteur qui soit activé et que le disjoncteur soit désactivé.
Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on considère le disjoncteur comme étant activé une fois qu'il a sauté.
C'est ça, exact. Parce que c'est sa fonction de disjoncter.
Oui, d'accord, c'est juste de le dire d'une autre façon.
Donc, comment on pourrait faire ça? Eh ben, on pourrait dire que l'ampoule, elle est connectée à une porte E qui est reliée d'un côté à l'interrupteur et de l'autre côté reliée à une porte non qui est reliée au disjoncteur.
Bah, donc du coup, quelque part, c'est peut-être aussi
on a perdu du monde, je pense.
Je pense qu'on a perdu du monde, mais là, honnêtement, c'est intéressant qu'on passe juste 3 secondes de plus dessus parce que ça nous permet de construire la suite.
Répète un petit peu parce que même connaissant parfaitement comment ça fonctionne tout ce bordel, là, j'ai pas compris ce que tu as expliqué.
Donc du coup, mon ampoule, elle est reliée à une porte E qu'on a vu tout à l'heure où les deux doivent entrer un signal 1. L'une des deux entrées, c'est mon interrupteur qui va envoyer le signal 1 à cette porte E. L'autre entrée, je la relie à une porte non, celle qui inverse le signal.
Ouais, mais là,
t'es
en train de faire ça sur un schéma fonctionnel, c'est pas forcément ce qui est en vrai. Enfin, c'est pas ce
exactement.
Qui est en vrai,
et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les portes logiques, c'est un outil mental.
C'est abstrait, voilà, c'est ça.
C'est d'accord, abstrait. C'est un système de pensée qui permet de relier les fonctions entre elles. D'accord. Donc oui, évidemment, d'un point de vue électricité, c'est beaucoup plus con. Hein. Là, y a juste des interrupteurs et des trucs qui s'activent et des machins. Là, c'est juste parce qu'on a besoin de comprendre la logique informatique.
Mais tu vois, j'aurais juré que pour l'interrupteur, le disjoncteur et ton ampoule, c'était d'abord une porte non, puis après une porte oui.
Ça, c'est dans la logique, mais pas dans le schéma fonctionnel.
Mais non, ma porte non, elle est mon disjoncteur. Il faut qu'il soit désactivé, donc il faut qu'il soit à zéro pour pouvoir laisser passer le courant. Dans mon exemple mental de quand il s'active, il coupe.
Donc c'est
coup,
la porte non.
Son signal passe par la porte non, d'accord?
Oui.
On sort de la porte non, on rentre dans une des entrées de la porte E, on est rejoint par l'entrée de mon interrupteur de chiottes, et ensuite, on a cette boîte E qui sort un 1 quand l'interrupteur est activé et le disjoncteur est désactivé. Voilà. C'est un peu compliqué, mais comme j'ai dit, si vous comprenez vaguement le principe, c'est largement suffisant.
Si vous avez compris le principe juste des portes logiques du début, déjà, c'est une belle avancée vis-à-vis de la compréhension de la logique en elle-même.
C'est ça. Donc là, je
vais vous expliquer. Après, c'était pour illustrer.
Si ceux qui sont pas arrivés à comprendre au bout de 2 fois ceux qui y sont pas arrivés, c'est pas grave. Je veux dire, vraiment, on s'en fout. Le but, c'est que vaguement, ça vous dise quelque chose et vous disiez, ah ouais, peut-être, je sais pas si je serais capable de le refaire, mais d'accord. Et franchement, si vous en êtes là, c'est impec, hein, je vous demande pas plus. On va faire un autre exercice, la domotique la plus low-tech du monde. Les interrupteurs va-et-vient du couloir de chez Phil. J'ai deux interrupteurs
toujours
la
même
couloir.
Personne au troisième.
Toujours, c'est ça.
Tu suis. Hein.
Comment, pardon?
On parle toujours de la même personne à la troisième personne du
sanglier. Oui, bien sûr. Oui.
J'ai deux interrupteurs dans mon couloir, un à chaque bout, forcément. Je viens de mon salon, j'allume celui qui est donc au début de mon couloir. Je vais dans la chambre, je rappuie sur l'interrupteur. À ce moment-là, ça va éteindre la lumière, vu que je l'avais allumé en rentrant. Je repars dans l'autre sens, je pars de ma chambre. Je rappuie, ça s'allume. Je rappuie de l'autre côté du couloir, ça s'éteint. C'est un interrupteur va-et-vient. Tout le monde en a eu dans des couloirs. Hein, dès qu'il y a deux interrupteurs, hein, tout va bien. Là où ça se complexifie, c'est si moi je rentre dans le couloir, j'allume, ensuite j'éteins en rentrant dans ma chambre, et ensuite ma copine arrive pour me rejoindre dans la chambre. Ah, je vous dirai pas ce qu'on fait après.
Elle
allume la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Oui, c'est désolé. Oui, effectivement, il faut être très précis là-dessus.
Non, c'était pas là-dessus qu'on était lumière... juste en train de faire des vannes de merde.
D'accord. Voilà, c'est ça, on était un petit peu dans le
Peggy 18.
Vois-tu ?
Exactement.
La lumière s'allume. Alors, du coup, si on fait la table,
bref, quand même.
Si on suit la logique, on peut remplir la table de vérité en disant que au début mes deux interrupteurs sont à zéro et donc ma lampe est éteinte. Ensuite, j'arrive par l'interrupteur B, je l'active, la lumière s'allume, elle passe à 1. Ensuite, j'arrive près de la chambre, je rappuie sur l'interrupteur A, où là du coup les deux interrupteurs, attention, là ils sont tous les deux à 1, mais la lumière est éteinte. d'accord, parce que je suis arrivé dans la chambre, j'ai éteint le couloir. Ensuite, ma copine arrive, elle appuie sur le l'interrupteur. Pardon, je reviens dans l'autre sens, j'appuie sur l'interrupteur. Bref, ça se rallume. On arrive à une table de vérité où A et B sont à zéro, la lumière est à zéro. A est à 0, B est à 1, la lumière est à 1, A est à 1, B à 0, la lumière est à 1, les deux sont à 1, la lumière est à 0. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Si je vous dis, il y en a qu'un des deux qui est activé,
et ça marche.
Et ça marche, par contre, quand les deux sont activés, ça marche plus.
Ou exclusif.
Donc c'est un peu l'un ou l'autre, mais pas les deux.
C'est ça, exactement. Ça vous rappelle à rien, ça?
Loup exclusif.
On n'en a pas parlé tout à l'heure, exactement, c'est le ou exclusif de tout à l'heure. Donc, en vrai, ça fonctionne pas du tout comme ça, on est d'accord, hein, ça c'est juste une opération mentale, hein, je rappelle, pour ceux qui voudraient, qui me diraient, oui, mais ça marche avec deux fils,
mais si tu veux, la logique, c'est pas forcément, faut pas forcément la lier à l'informatique ou à l'électricité, c'est juste ça. Une façon de, d'analyser une situation.
C'est ça, c'est un outil de réflexion, en fait.
Ouais, voilà.
Là, c'est bien, on a fait avec deux variables depuis tout à l'heure, mais comment on fait si j'ai trois interrupteurs? Parce que ça peut marcher avec trois interrupteurs dans l'absolu. Imaginons que c'est un très long couloir et que je veuille un interrupteur à côté de mon bureau, qui est au milieu du couloir. Comment on fait? Déjà, faut savoir à la base que avant même qu'on fasse un exercice éventuel, on peut mettre ces portes sous la forme d'équations logiques. Comme on le dit à l'oral A et B, ou A exclusif ou exclusif B, d'accord? Ou qu'on disait A ou B, ou A et B, bah tout ça on peut le dire à l'oral, d'accord? Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a de la logique, vient quelque part une espèce d'algèbre, d'accord? Une façon de représenter ça sur un papier de façon simple. Donc, on peut mettre A.B pour dire A et B, et on met A plus B pour mettre A ou B. Voilà, ça c'est la représentation graphique, hein, de quand on écrit des équations qu'on appelle des équations booléennes, si vous voulez les voir sur Google pour en savoir plus. Mais si je dis ça, c'est parce que en fait, quand on a trois variables, on peut du coup mettre, disons A et B et C par exemple, on va mettre A.B.C. Et sans en rentrer plus dans la réflexion, faites-moi confiance, sachez que A et B et C, c'est pareil que A et B et C, ou A et l'ensemble B et C. Est-ce que j'en ai perdu ou est-ce que c'était clair?
Non, mais là je pense que tu vas trop loin dans les détails. Là.
Ouais, d'accord. J'ai peur que t'ailles un peu loin pour
ça. C'est ce qu'on appelle bien, mais comme je disais, c'est la logique, mais... c'est la logique booléenne, d'accord? On peut réunir des et ensemble, on peut réunir des ou ensemble, et on peut factoriser l'ensemble comme l'algèbre que vous avez détaillé.
Ça marche aussi en pneumatique pour ceux qui font l'algèbre, c'est le même système.
Voilà.
Ça s'appelle les équations logiques. Et après, tu peux faire des schémas complets où t'as des portes logiques que tu
comme
mets.
Comme par exemple dans Minecraft, bout à bout, qu'un interrupteur à l'intérieur et qu'un interrupteur à l'extérieur de la maison puissent tous les deux ouvrir la même porte.
Quelle est
l'idée? Voilà, c'était que
voilà, c'est ça.
Et l'autre soit capable de le faire. Donc tu utilisais l'un ou tu utilisais l'autre.
D'accord. Et quel est l'intérêt de faire ça et de s'emmerder avec des équations? En fait, c'est parce que après, on peut faire des opérations mathématiques de factorisation, etc. Les « et » se comportent comme des multiplications, les « ou » comme des additions, mais ça on s'en fout, on va pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que ça permet de réduire le nombre de portes logiques au final.
Et il y a aussi une autre chose, oui. C'est que des fois en électronique, les constructeurs vont pas se dire « alors j'ai besoin de trois portes « ou », de deux portes « non » et de, je sais pas, cinq portes « et ». Ils vont pas s'embêter à prendre un exemplaire de... autant de références de portes différentes qu'il faut pour faire leur montage. Il y a moyen parfois, en cumulant plusieurs portes logiques d'un même signe, par des montages plus ou moins complexes, de refaire des équations c'est logiques
ça.
De base.
C'est ça, il y a des équivalences en fait.
Tu prends un seul composant, en fonction du câblage que tu fais, tu peux retrouver la logique de d'autres portes logiques et ça fait des économies.
Et tu nous en as mis une image, je crois d'ailleurs, hein, sur.
Alors, je vous ai fait une image avec l'exemple avec les trois interrupteurs. On va pas y venir en détail parce que c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Faut savoir qu'une fois qu'on fait la table de vérité qui va bien, que peut-être je t'avais donné d'ailleurs, on s'aperçoit que ça s'allume dans un nombre de situations bien donné. Donc, ça s'allume quand les trois sont activés ou quand seulement 1 sur 3 est activé, donc on se retrouve avec un gros ou exclusif qui réunit ABC et un et qui réunit ABC. Donc du coup on peut sûrement factoriser ça mieux que ce que j'ai fait parce que je suis très nul en logique booléenne, mais en gros ça donne le petit schéma que je t'ai donné où il y a deux portes et qui se rejoignent entre elles et deux portes ou exclusives qui se rejoignent entre elles, le tout pour finir par un ou parce que c'est soit une situation soit l'autre situation. Bref, au final, on se retrouve avec un sacré bordel. Voilà, donc ça, c'est les portes logiques. Je pense que si vous avez vaguement compris, ça suffit. Hein, est-ce que vous avez vaguement compris les portes logiques?
Ouais, mais bon,
moi, je vais être honnête, je partais pas vraiment de zéro, donc.
Voilà, non, mais dans les grandes lignes, si vous avez vaguement compris, c'est bon, il n'y a pas besoin de savoir plus. Je suis allé très très loin, parce que je me suis dit que ceux que ça intéressait auraient peut-être envie d'aller chercher sur internet après, derrière.
Moi, je sais plus à quelle image doit être là, en fait, je t'avouerai.
Alors, pardon, oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais en même temps, j'ai raccourci la section sur les.
Je dois noter qu'il y a, pour tout vous raconter, il y a Phil qui m'a envoyé un premier jet il y a quoi, il y a une semaine.
À peu près,
ouais. De ce qu'il allait dire, et que déjà, je trouvais que c'était plus. Pour des du grand public, c'était déjà haut niveau et il a réduit la complexité. Et encore là, je pense qu'on a perdu pas mal d'auditeurs. Ouais. Donc imaginez si on était resté sur la première logique, mais là on avait perdu tout le monde.
C'est ça. Du coup, avant qu'on perde tout le monde, remets-moi l'image du Radio Réveil parce qu'on va revenir dessus. Oh là, on va réunir l'ensemble des connaissances.
Ouais.
Donc, alors, est-ce que vous êtes encore un peu chaud ou est-ce que vous êtes tous morts?
Chaud de la paix. Ouais, chaud.
Alors, ça dépend de qui tu parles. Je dirais Seven, est-ce que t'es chaud toi? Est-ce que Kaldin est chaud?
Ah oui, vas-y.
Ouais, okay.
Moi j'attendais les processeurs. Hein.
Alors, les processeurs, justement, on y viendra plus tard. Plus tard, mais pas aujourd'hui.
24h, vers 24h15, 24h16.
C'est ça. Alors, d'accord. Pour les quelques réveillés parmi vous, apparemment, parce que je crois que j'en ai endormi pas mal, vous aurez peut-être remarqué que les tables de vérité, avec les deux entrées, au final, c'est un état de sortie en fonction d'un nombre compris entre 0,0 et 1,1. Donc entre 0 et 3.
Ouais.
C'est logique, on a deux trucs qu'on peut compter en binaire jusqu'à 3.
C'est ça.
Donc si on partait sur 3 entrées, dans l'absolu, avec donc on pourrait compter de 000 à 111, on pourrait compter, je vous le fais rapide, hein, vous n'êtes pas obligé de le savoir par cœur, de 0 à 7. Ok ?
Ouais.
Si on partait sur 4 entrées, on pourrait compter de 000, qui fait toujours 0, ça change pas, à 1111. Attendez, 1111, oui c'est ça, ça fait bien ça, 4-1. Et on arrive à 15. Exactement. Ce nombre d'entrées, c'est ce qu'on appelle le nombre de bits. Hein, c'est
B-I-T-S,
essentiel.
C'est là maintenant qu'il faut se réveiller, les mecs.
C'est ça.
BITS, vous enlevez le E.
BITS, c'est ça. Il est essentiel parce que ça détermine le nombre de combinaisons qu'on peut avoir en entrée.
D'ailleurs,
tu dévies sur de l'hexadécimal maintenant.
Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'hexadécimal. Justement, c'est ce que je vais préciser. Tu vas comprendre pourquoi il n'y a pas le rapport. Je sais pas si tu l'as noté, mais je vais quand même préciser. Pour ceux que vraiment ça parle pas, là, parce qu'on va commencer à parler de bits et tout ça, sachez tout simplement qu'on retrouvait ces valeurs. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais on retrouvait ces valeurs à un moment dans les RAM. On avait 2 mégas de RAM, 4 mégas de RAM, 8 mégas de RAM, 16 mégas de RAM, 256.
En fait, on les retrouve encore.
512.
Hein, mais
ouais, c'est... Enfin, maintenant, on est plus dans des valeurs qui
on parlera plus en détail de tout ça dans la prochaine chronique sur les bits et les processeurs, où justement, je rentrerai un peu plus, et puis on parlera de couleurs, et on parlera de console 8 bits, et à quoi ça correspond. On en parlera à ce moment-là. Là, c'était juste histoire de donner une idée de pourquoi on va choisir 4 entrées et pas 2 et pas 3 et pas voilà.
D'accord, voilà, mais justement le fait de parler des RAM qui étaient sur ces chiffres là, ça parle un peu plus quoi.
Oui, c'est pour ça qu'on a toujours effectivement une puissance de 2,
enfin voilà, on en parle. Mais ce qu'il y a, c'est que là maintenant on compte en milliards et du coup bah, c'est pas forcément 2, 16, 32. C'est parce que c'est 2 puissances patatoïdes.
Peu que les chiffres ont été arrondis pour le commun des mortels.
Non, c'est juste que c'est en milliards.
Non, c'est juste que c'est des milliards en fait.
Ouais, non, mais quand on dit, par exemple, 16 gigas de RAM, c'est pas 16 gigas exactement.
Ah non, c'est 16 gigas et quelques...
Oui, voilà. C'est ça, ouais.
Je vous partais beaucoup trop loin. Revenons aux bases. 1 bit, c'est 2 combinaisons possibles. 2 bits, c'est 8 combinaisons possibles. Et 3 bits, 16 combinaisons. Ok. 4 bits, oui, c'est 16 combinaisons.
Désolé,
c'était ma troisième ligne, en fait. donc, si on veut compter de 0 à 10, en décimale, il faut au minimum un système avec 4 bits en entrée. Ok, parce que en dessous c'est que 7 et au dessus et ben c'est on peut monter au dessus donc c'est bon. Après on peut mettre plus hein, mais ça sert à rien.
Ouais, c'est ça, c'est à dire que notre nombre de toute façon il a que 10 positions possibles donc ça sert à rien d'en coder plus.
Pour simplifier l'exercice, on va pas programmer tout l'affichage, on va revenir à un seul chiffre à afficher, et pour simplifier encore, on va pas programmer tout le chiffre, on va juste revenir à la fameuse barre qui reste éteinte lorsqu'on affiche 9 là, celui qui est sur l'image du réveil, donc ouais. Toujours en bas à gauche. Elle s'allume du coup à 4 valeurs décimales, qui sont 0, 2, 6 et 8. Et donc du coup, on fait une jolie table de vérité, avec les états des chiffres, donc A0, A1, A2, A3, en partant de la roue primaire, vous rappelez.
Je te lance l'image peut-être.
Oui, tu peux balancer l'image, mais du coup, elle est fausse parce que j'ai oublié mon 2 sur le chiffre qui s'active. Mais en gros, ah bah oui, je me suis merdé. Ça sera corrigé dans le PDF, promis. Donc en fait, on se retrouve à compter pareil sur 4 bits de 1 à 1001 qui représente 9. Et là, comme pour les interrupteurs, on tire des expressions logiques correspondant aux 4 moments où la barre est activée. On factorise, on réduit, on se démerde avec les portes qu'on a, etc. Et après, on répète ça avec les mêmes entrées, d'accord, pour tous les autres segments de l'affichage. Et c'est comme ça qu'on programme un afficheur 7 segments. Voilà. Il traduit visuellement une valeur binaire en un nombre décimal que pouvait lire la tête dans le cul à 3h du matin. Voilà, c'est pour ça que je vous ai appris à compter en binaire, que je vous ai appris les fonctions logiques, et pas parce que, tout simplement, avec ça, on peut convertir facilement, entre guillemets, hein, un nombre, enfin, on peut comprendre comment on convertit un nombre binaire en nombre décimal, et sous la forme d'un affichage LCD. Alors, on est très très loin d'un microprocesseur. À ce niveau-là, on parle de circuit intégré, voire vulgairement même de puce électronique. J'ai donné à Kenton une image où on voit justement, eh ben, à quoi correspondent les pattes. Par exemple, on va les voir sur un circuit intégré, on va avoir donc les pattes 1 et 2 de la puce qui vont être l'entrée et la patte 3 qui vont être la sortie d'une porte logique quelconque et ou je ne sais pas ce que c'est exactement, je crois que c'était une porte.
C'est ce que je parlais tout à l'heure en fait, ils prennent parfois des composants avec plein de portes logiques intégrées et ils câblent de manière à retrouver des équations logiques pour avoir des signaux en entrée et avoir ce qu'ils veulent en sortie en fait, c'est exactement ça. Et donc,
ces composants contiennent ces fameuses portes logiques qu'on a vues tout à l'heure. On relie les pattes entre elles, et avec les autres interrupteurs et tout, hein, via un circuit imprimé. Alors maintenant, imaginez une puce où il y aurait des milliards de ces portes logiques, avec même dans un coin une zone de mémoire pour stocker les valeurs, pour ensuite y faire appel plus tard. Du coup, pouvoir agir selon un état précédent, d'accord, et pas juste selon un état d'entrée. Le tout, évidemment, vu que c'est par rapport à un état précédent, les cycles devraient être temporisés à une certaine fréquence. Voilà. Donc, on abordera a priori ces fameuses puces le mois prochain. Selon vos retours, donc soit on survolera le sujet, soit on ira dans le détail comme ici, peut-être pas autant dans le détail d'ailleurs.
Je pense que ça va
permettre de faire des retours, du coup, ça nous aidera à savoir.
Donc, n'hésitez pas à faire des retours, surtout c'est le moment. Et je veux remercier Oasis qui m'a pas mal aidé. Et je veux remercier aussi ma copine qui n'y connaissait rien et que j'ai saoulé à essayer de lui lire cette chronique et qui elle aussi m'a aidé avec notamment l'idée de la roue du compteur électrique. Ou du compteur kilométrique pour expliquer le binaire. Voilà. J'espère que je vous ai pas tué avec ça. Si, encore une fois, je rappelle, si vous avez compris vaguement le principe, ça suffit. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y avait tellement de personnes qui n'avaient même pas cette idée de comment ça marche derrière.
Donc ça aurait été gênant pour la suite de tes chroniques, les chroniques suivantes.
Surtout que quand on veut parler de processeurs et que justement j'ai envie de vous parler de bits, si j'ose dire. Non mais blague à part, quand
je veux dire ce que tu veux. Hein,
pourquoi ce processeur, c'est intéressant qu'il soit à 32 bits. Pourquoi 64 bits, c'est intéressant, mais pas tout le temps. Si vous savez pas qu'un bit, ça correspond à un caractère d'une instruction en binaire, et pourquoi on a besoin d'un caractère et pourquoi on compte en binaire et pourquoi voilà. Si vous arrivez à comprendre pourquoi on compte en binaire, d'accord, à quoi ça correspond un bit, et que il y a des petits machins qui font des sorties en fonction des entrées, vous avez tout compris.
Donc voilà, moi, juste pour voir si j'ai bien compris ce que tu me racontes, on va parler prochainement de processeur. Ça c'est un fait, d'accord.
Oui.
Ce que tu nous expliques, c'est qu'à l'intérieur d'un processeur, il y a des milliards de portes logiques. Tu viens nous expliquer ce que c'était les portes logiques et pourquoi on utilise ça de cette façon.
Et comment ça fonctionne.
Voilà. Si maintenant vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, le résumé, ça veut dire que vous pouvez réécouter la séquence ou télécharger le dossier PDF pendant que Phil mange ses chips juste après
la. Pardon, j'ai oublié de couper mon micro.
Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai qu'il y avait un tout petit passage qui était un petit poil ardu, peut-être pour pour ceux qui n'ont aucune notion de tout ça.
Le virage pour moi était difficile aussi, je l'ai réécrit pas mal, mais passer un moment, tu peux pas trop simplifier sans expliquer.
C'est vrai qu'à un moment, il faut quand même expliquer ce qui se passe, enfin, ouais. Il faut quand même expliquer comment ça marche, les règles au moins.
Oui.
Et ce qu'il y a, c'est que quand tu connais, c'est pas toujours évident d'avoir à dire un simplifier. Exemple ou une,
bah oui, c'est, quand une c'est évident pour toi, va expliquer à quelqu'un qui comprend pas quand c'est évident
pour
toi.
Bah oui, c'est justement
bon,
ça.
Le souci qu'il y a, c'est que c'est un domaine où t'es obligé d'apprendre petit à petit parce qu'il y a une quantité d'informations considérables qui viennent d'un coup.
C'est ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément toujours ta façon de penser. Enfin, tu peux adopter plus ou moins ça comme façon de penser, mais à la base, c'est pas tout à fait naturel non plus. Quoi.
D'ailleurs, je vous rassure et je vous attriste peut-être d'un autre côté. Il va y avoir un bond de je vais pas vous expliquer parce que même moi j'y comprends rien, entre ce que je vous ai expliqué là, la base, et qu'on va passer au processeur. D'accord. Il y a une zone de flou, de changement d'échelle entre un truc où il y a trois composants qui se tirent la bourre et un truc qui a des milliards de composants gravés sur du silicone avec des techniques que je
silicium,
sais même pas comment
silicium,
ça fonctionne.
Silicium.
Voilà. Du silicium.
Silicium.
Pardon, oui.
Pas mélangé.
Oui,
non, mais ça n'a rien à voir avec.
Épaisse que.
Mais ça c'est silicium, oui. Ça c'est l'habitude de l'anglais, ça. Enfin bref, toujours est-il, on ne va pas construire un processeur au fur et à mesure de mes chroniques, hein, c'est pas le but. Mais le mois prochain, du coup, normalement, vous devriez mieux comprendre quand je vous dirai que ça fait 32 bits. Vous comprendrez que ça fait plein de milliards de combinaisons.
Ouais, pour ceux qui nous écoutent juste en podcast, qui donc vous n'avez pas l'image, n'hésitez pas à jeter un œil sur des cours basiques d'électronique. Vous aurez au moins les schémas ou même sur le PDF, hein, parce que les schémas vraiment vous donnent un support explicatif énorme.
Oui, c'est très parlant en fait.
Voilà, c'est très parlant. C'est pas pour rien qu'ils ont mis ces normes en place. Parce que vous comprenez tout de suite ce qui se passe dans une porte logique. Pour moi, c'est essentiel d'avoir les images avec. Donc là, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas l'image, mais n'hésitez pas à aller voir le PDF.
C'est pour ça que je suis pas rentré en détail sur les trois interrupteurs, alors que dans le PDF, je suis un peu plus rentré en détail. Donc c'est pour ça, si vous voulez aller voir, si vous voulez aller, ne serait-ce que sans aller faire des recherches partout sur Internet, aller un peu plus loin dans le sujet, bah je vous file mes notes, ce que je n'ai pas lu en entier finalement, et déjà ça vous fera un début, et puis si ça vous intéresse et que vous commencez à chercher partout, dites-le moi, parce que du coup je serai vachement content.
Voilà, et comme ça, faites-nous
des retours. Exactement.
J'ai envie de dire aussi, si vous n'avez quasiment rien compris à tout ça,
faites des retours aussi.
Oui, à Minecraft avec les portes logiques de Redstone.
Exactement.
Ou faites le retour quand même, parce que ça peut aussi servir.
Oui, bien sûr, faites le retour. Mais c'est vrai que si vous voulez mettre ça en application, la Redstone de Minecraft, c'est vachement bien parce que vous vous affranchissez de tous les détails physiques que vous devriez théoriquement apprendre, la théorie. Là, vous vous en foutez complètement et vous pouvez tout de suite mettre ça en application. D'ailleurs, tiens.
Tu vois concrètement à quoi ça ressemble, quoi. Les portes et tout ça. Clairement, ça te parle, tu les vois.
Un truc tout con. Je fais de l'auto-promo sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver une des premières vidéos tuto de Minecraft que j'avais fait. Je fais un compteur en fait, un compteur de victoire, un truc où chaque fois qu'on appuie ça augmente, et comme ça a des valeurs qui sont affichées non binaires, je vous montre tout le processus avec les portes logiques dans Minecraft. Donc ça peut-être vous parler un peu plus que vraiment les valeurs théoriques avec le voltage et ainsi de suite. Voilà, en tout cas merci Phil.